RCF.
Namur, quand c'était la guerre. Recueil de témoignages sur Namur et les Namurois durant la Seconde Guerre mondiale. Une émission de l'ASBL Namur Initiative Citoyenne, soutenue par la province de Namur dans le cadre de l'appel à projet Territoire de mémoire, par la ville de Namur et par RCF Sud-Belgique. Bonjour à toutes et à tous, je suis Richard Dessart pour l'ASBL Namur Initiative Citoyenne et voilà, dans cette émission Namur en guerre, je suis content, on va passer au premier témoignage, puisque les deux semaines précédentes c'était l'histoire de mon arrière-grand-père que je vous racontais, mais maintenant ça y est, on a récolté les premiers témoignages. Au moment où je vous parle, on en a déjà recueilli 6, on a eu pas mal de contacts, d'ailleurs on s'excuse, on n'a pas encore répondu à tout le monde, mais vous inquiétez pas, on est en train de résorber le retard et tout le monde va être contacté et on recherche encore de nouveaux témoignages, hein. On veut au minimum en avoir une quarantaine, mais si on en a plus, c'est encore mieux. Donc si vous souhaitez vous aussi témoigner, il y a plusieurs possibilités pour nous contacter, soit via le site internet www.namuranguerre.be, soit par mail info@namurinc.be, par téléphone au 0474 114 909, 0474 114 909, ou par courrier à ASBL Namur Inc, rue Montcrabeau numéro 6 à 5000 Namur. Et tout de suite, le témoignage que vous allez écouter, c'est un monsieur charmant qui habite Wépion aujourd'hui, qui habitait rue Astimoulin, tout près de la prison au moment de la guerre. Il s'appelle Claude Charlier, il est né en 1930, il a donc 90 ans aujourd'hui, et en plus c'est le grand-père d'une petite célébrité de Wépion, vous savez, c'est le grand-père de Ben, le conservateur du musée de la fraise, qui était là aussi au moment du témoignage. On a passé un très bon moment, et vous voyez, ces témoignages, évidemment, ils durent longtemps, donc ici on en enregistré plus d'1h20 de témoignages. Dans cette émission, vous n'aurez qu'une vingtaine de minutes, mais le témoignage en entier, en version écrite, va se retrouver d'ici quelques mois sur le site namuranguerre.be, qui est un site qui va vivre pendant plus d'une année, donc n'hésitez pas à aller dessus régulièrement, c'est là-dessus que vous retrouverez après tous les témoignages par écrit en entier. Tout de suite, on écoute Claude Charlier.
Pour commencer, mon père. Mon père, qui a commencé sa carrière comme militaire, a eu un accident en cavalerie. Il a été réformé. Il est resté à la maison. Mais mon père avait deux mots. Civisme et patriotisme. Ça, c'était la base de la vie de mon père. Et bien organisé. C'est-à-dire qu'il a senti l'arrivée de la guerre. Quelques mois avant mai 40, il a senti l'arrivée de la guerre. Et il a commencé, et pour lui, la guerre, évacuation. On part, on quitte Namur et on part. Et il avait préparé dans une armoire, nous étions 3 enfants, 3 sacs d'eau. Dans les sacs d'eau, il y avait des boîtes de biscuits, il y avait de la nourriture sèche pour pouvoir manger en cas de nécessité. Arrive la déclaration de la guerre. Le 10 mai, mon père nous appelle et dit, les enfants, on part. Alors on a pris nos sacs d'eau, on a mis nos sacs d'eau, hein, et on était prêts au départ. Mon père dit, attention, nous avons un chien ici. On ne va pas partir avec un chien en évacuation. Et il m'envoie chez le pharmacien chercher du poison pour empoisonner le chien. On a empoisonné le chien, on l'a enterré dans le fond du jardin. Et voilà. Et nous avions à la maison une jeune fille, Lise, qui était une amie attachée assez bien à ma mère, Lise. Et mes parents ont dit, Lise, écoute, nous partons, il faut que tu rentres chez tes parents, toi. Et voilà la clé de la maison, si vous voulez venir, en cas de nécessité, voilà, rentre chez toi, nous partons. Ok, et Lise est partie chez elle, elle habitait Jambes. Et nous voilà partis. Mon père avait hanté d'aller à Paris parce que sa société était à Paris et il avait des possibilités aisées là-bas. Bon, nous prenons le train. Pour commencer, le train nous dépose à Charleroi. À Charleroi, on en profite pour aller dire bonjour à la famille, la maman de mon père, tout ça. ils discutent entre eux, puis alors on ne reste pas. Nous reprenons un train pour Paris et nous voilà partis en train qui arrive à Erquelines. À Erquelines, le train s'arrête et on nous dit « Tout le monde descend, on va s'occuper de vous ». Et il y avait énormément de monde, je vois encore Erquelines, beaucoup de monde sur la place, il y a une place là-bas, près de la gare, je crois, il y a une place. Et à un moment donné, on nous dit, voilà, il y a un train pour Paris à la gare. Montez dedans, le train va partir rapidement. On va sur les quais de la gare, c'est un train, oui, un très grand train, wagon à bestiaux, tout wagon à bestiaux. Et comme il y avait beaucoup de monde, on est tous rentrés dans les wagons à bestiaux, oui, dans lesquels il y avait de la paille, assez bien de paille. Voilà, on était dans les wagons à bestiaux, installés là-dedans. Gros point d'interrogation pour nous, c'était le départ de la guerre, ça, les wagons à bestiaux. Hein. Ce ne sont pas des wagons avec des fauteuils comme n'importe quoi. Les wagons à bestiaux, c'était un élément, qui est un départ de problèmes, de difficultés de guerre. Bref, on est parti. La Croix-Rouge nous a nourris en cours de route, sans problème. On est arrivé à Lunel, près de Montpellier. À Lunel, le train s'est arrêté. Allez, tout le monde descend. Vous allez aller... Suivez-nous, on va vous installer dans la ville. Il y avait beaucoup de monde. Et entre autres, une partie de la des Belges, vous allez vous installer dans une école. Il y avait une grande école avec des grands couloirs. Et il y avait déjà, dans les couloirs, des matelas. Donc, imaginons, voilà le couloir ici. Eh bien, dans le couloir, il y avait deux matelas, un espace vide. 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 Et un couloir entre les couloirs. Et on circulait. Et voilà. Mais tous, donc, on était tous, voilà, l'un dans l'autre, quoi. Mais attention, les Français nous avaient déjà prévu, donc on a été très bien reçus par les Français. Hein. Nous étions des immigrés aussi, nous, mais bien reçus par les Français. Voilà, on était installés. Et au bout d'un jour ou deux, ils nous ont trouvé du logement dans la ville. Et nous avons été, je me souviens, dans un magasin abandonné de chez Bata, mais impeccable. Voilà, il y avait des matelas, il y avait une table, des chaises, tout ça. Voilà, on a vécu là-bas. Mon père, c'est un peu, qui avait son nez un petit peu partout, il s'est débrouillé pour aller s'installer en bord de la Méditerranée. Nous étions pas loin de la Méditerranée, et il a trouvé un logement en bord de Méditerranée, on est allé là-dedans, et mon frère et moi, et ma sœur, on a été comme des rois au bord de la Méditerranée. Maillot de bain est dans l'eau tout le temps.
Je suis pas le roi de la prairie, mais un cow-boy assez spécial. Car je me tiens, c'est plus original, bien mieux à table qu'à cheval. Si le mien reste à l'écurie, c'est parce qu'il rue dans les brancards. Et je ne veux pas monter ce vieux tocard qui me fait faire le grand écart. Car j'ai un beau chapeau, j'ai un grand lasso, j'ai un petit couteau et l'air idiot. Oh oh, j'ai un foulard vert, j'ai deux revolvers. Pour me faire peur, je tire en l'air. Si j'ai cette belle chemise, c'est que je me tiens à carreau contre toutes ces vaches de taureaux qui en décornent mes patrons. C'est ainsi qu'un de par méprise, en voyant rouge mon foulard, fonça sur moi d'un cri sans crier gare. Je me suis planqué dans un placard. Car j'ai un beau chapeau, j'ai un grand lasso, j'ai un petit couteau et l'air idiot. Oh oh, j'ai un foulard vert, j'ai deux revolvers. Pour me faire peur, je tire en l'air. L'habit, dit-on, ne fait pas le moine, mais il y contribue beaucoup. C'est pour cela que la femme d'un chef you un beau jour me fit les yeux doux. C'était la belle fleur de pivoine, son époux me dit furibard. Tu vas mourir ou l'épouser dardard, sans retard j'ai pris l'autocar. Car
J'ai un beau chapeau, j'ai un grand lasso, j'ai un petit couteau et l'air idiot. Oh oh, j'ai un foulard vert, j'ai deux revolvers. Pour me faire peur, je tire en l'air.
Il y avait un petit détail que j'ai oublié de vous dire. Dans les sacos d'eau, au moment du départ, mon père donc, avait prévu de la nourriture, des vêtements, de change, tout ça. Et il nous avait prévu une petite trousse ici, un couloir, une petite trousse ici, avec une pièce d'identité dedans et deux ou trois pièces d'or. Mon père avait des pièces d'or à la maison et chez tout le monde, lui, comme ma mère, ma soeur, mon frère, on avait tous une petite trousse ici avec des pièces d'or en cas de nécessité. Mon père qui avait donc ce anti-civisme et patriotisme. Quand nous étions à Lunel, arrivés donc à Lunel, nous étions dans le magasin Bata, on n'avait rien à faire. Il y a un groupement politique belge qui était là et qui a dit aux Belges, écoutez, si vous avez de l'argent, nous avons besoin d'argent, nous les Belges, parce qu'on récupère des soldats. Et il faut qu'on le nourrisse, on a besoin d'argent pour organiser le départ des soldats, les ramener. Et mon père, en homme civique, tout ça, il a été porter quelques pièces d'or. Ma mère a dit, non, on ne va pas donner des pièces d'or, gardez pour nous, c'est trop nécessaire. Il a été donné quelques pièces d'or à cet organisme belge qui s'occupait de choses. Et au bout de X mois, on a appris que le bonhomme qui venait chercher de l'argent avait disparu, on ne l'a plus jamais vu. Et les pièces en or, ma mère a dit à mon père, tu vois, c'est... Bon, et puis un beau jour, ok, on peut rentrer, les Allemands occupent la Belgique et la France, et on a l'autorisation, les Belges qui étaient en France, ont l'autorisation de rentrer en Belgique. Ok. Et voilà, des trains sont organisés au départ de Lunel, là-bas, des trains malencontreux, c'était pas des wagons bestiaux, c'était des trains à banquette. Quoi. Et nous roulons, et nous avons vu à la frontière les Allemands en uniforme des officiers ou pas, avec képi, impeccable, qui sont rentrés dans les wagons et qui ont demandé les papiers à tout le monde. Et quand ils avaient pris les papiers du compartiment où il y avait 5 ou 10 personnes ici, ils étaient là, à la portière, ils prenaient les papiers, regardaient, rendaient les papiers, puis quand ils avaient fini, ils saluaient, ils passaient au... Impeccable. On se disait déjà, ça a l'air d'aller. Hein, je me souviens. Bon, bref, nous sommes arrivés alors en Belgique. Nous sommes allés à Namur. Nous avons été retrouver notre maison. On est rentré dans la maison. La maison était impeccable. Rue Astimoulin, vous voyez le mur de la prison. Nous étions en face du mur de la prison numéro 13. Devant la maison, c'était le mur. Et notre maison est impeccable. Bon, ben, tout content. Le lendemain, voilà que Lise, en question, qui avait la clé, elle vient à la maison. Elle dit, vous êtes rentrée, mais... ben voilà. Et ben, je viens toutes les semaines, je viens jeter un coup d'œil, si je viens donner à manger aux canaris, tout va bien. Mais qu'elle dit à mon père, je me souviens, j'ai un petit problème à vous dire quand même, c'est que mon père, prévoyant, avait beaucoup de vin en cave, pour notre mariage ou notre première communion, à l'époque, on mettait du vin en réserve pour la première communion des enfants, pour le mariage des enfants. Mais alors le papa de Lise, quand il venait conduire sa fille pour voir la maison, ben, il aimait bien une bouteille de vin et il piquait une ou deux bouteilles de vin chaque fois qu'il venait à la maison. Bon, mon père est allé voir à la cave, il n'y avait plus de vin. Mais mon père a dit à Lise, tu diras à ton papa qu'il a bien fait. Hein, et on te remercie beaucoup de ça. Et puis Lise d'encore rester à la maison. Ce sont des petits détails sympathiques. Alors, bon, mon père, nous voilà donc installés en Belgique, rentrés en Belgique. Mais mon père, dans sa tête, c'est un militaire. Hein. Il était sévère dans la maison, mais il avait ce caractère militaire, hein, je vous ai dit, patriotisme, etc. Et il était malheureux de se voir, lui, ancien militaire dans sa maison à ne rien faire en tant que militaire. Alors il a décidé tout de suite, très très vite, d'aller rechercher des soldats, parce qu'il y avait des soldats partis en Allemagne, les Allemands avaient pris, mais il y en avait beaucoup qui ne voulaient pas partir en Allemagne et qui se cachaient. Alors mon père, on a repéré ça, les gens savaient que le petit Joseph là-bas, il n'est pas parti en Allemagne, il est caché là-bas. Alors mon père allait chercher ces soldats-là, et il connaissait beaucoup, très bien les Ardennes, mon père. Il connaissait, parce qu'il faisait du commerce de charbon dans les Ardennes, donc il connaissait très bien les Ardennes. Alors il prenait les soldats belges, et il allait les conduire dans les Ardennes, dans les fermes. Comme ça, ils restaient là-bas, ils étaient cachés pour les Allemands, parce que les jeunes soldats devaient aller en Allemagne, hein, mais tous ne voulaient pas y aller. Puis après ça, quelques années, c'était les Allemands prenaient les jeunes pour aller travailler en Allemagne. C'était le travail obligatoire. Mais il y avait beaucoup de jeunes universitaires, des étudiants qui ne voulaient pas y aller, et alors qu'ils se cachaient aussi, mon père allait en cacher aussi, dans les Ardennes. Et ma mère, qui avait fait toute la guerre 14 en Angleterre, c'est trop long à expliquer, mais c'était une histoire assez extraordinaire, elle parlait mieux l'anglais que le français, parce qu'elle avait fait toutes ses études de toute la guerre en Angleterre. Elle parlait très bien l'anglais. Et ça aidait mon père lorsqu'il y avait des Anglais qui traversaient la Belgique, qui voulaient retourner en Angleterre. Ma mère et jouer le rôle d'interprète alors, dans ce cas-là. Parce que parfois, il y avait des blessés anglais, hein, qui étaient tombés d'aviation, tout ça, qui étaient blessés et qui étaient soutenus dans une maison. Mais on était quand même des sales gamins, mon frère et moi. Hein. Tout était bon pour mettre son nez partout, aller voir. Et on en parlait encore le jour. On avait remarqué, mon frère et moi, l'arsenal. Vous voyez l'arsenal ? Vous voyez la grande façade devant la Sambre. Si vous regardez la grande façade devant la Sambre, il y a la façade latérale, perpendiculaire, qui est là. Il y avait, bon, à ce moment-là, l'arsenal, c'était vétuste, c'était vraiment c'était un hangar à je ne sais pas, les Allemands étaient dedans, hein, ils avaient des armées ou je ne sais pas quoi, mais c'était très très vétuste l'arsenal à l'époque. Et nous avions repéré, mon frère et moi, que sur la façade latérale il y avait une espèce de porte-fenêtre avec un carreau. Est-ce que c'est nous qui avons cassé les carreaux? Mais ça m'étonnerait. Et qu'il y avait un carreau cassé, et qu'est-ce qu'on fait, nous les sales gamins? On va voir, hein. On voit qu'il y a un carreau cassé. On va voir. Qu'est-ce qu'on voit derrière le carreau? Des sacs en toile jute que les armées utilisent pour remplir de sable, pour faire des protections autour des mitrailleuses ou des camps militaires. Hein. Hein, ce sont des sacs grands d'un mètre environ. Et hop, qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a passé, on a commencé à piquer des sacs et on a ramené des sacs vides, évidemment, à la maison. Ah, mon père était tout content, parce que on avait des pommes de terre, il y avait ravitaillement, difficile à l'époque, mais on avait des pommes de terre, mon père qui allait dans les Ardennes facilement, on avait à la maison des pommes de terre. Mais il y avait des contrôleurs de ravitaillement, qui venaient à l'improviste chez vous, voir si vous n'aviez pas trop de nourriture, et s'ils avaient trop de nourriture, ils vous piquaient la nourriture et ils partaient, et souvent ils le prenaient pour eux. Et alors qu'est-ce qu'il a fait mon père? Il a pris ses sacs de toile jute, il a mis les pommes de terre dedans, ça lui faisait donc un boudin grand comme ça, gros comme ça. Mon frère et moi, nous avions deux lits jumeaux, il a enlevé le matelas d'un des deux jumeaux, et il a mis tous les sacs de pommes de terre remplaçant le matelas. Il a mis drap de lit, couverture, fermée convenablement, et mon frère venait dormir dans mon lit, et on dormait à deux dans un lit, et le lit là, qui était impeccable, quand quelqu'un voit, ben oui, il y a deux lits identiques, mais celui-là, il est plein de patates. C'est comme ça qu'on avait des pommes de terre à la maison. Ce sont des détails de la guerre. Un petit renseignement, pendant la guerre, il y avait rue des Croisiers, il y avait dans un grenier un juif allemand, monsieur Hoppler, caché. Au-dessus, il y avait une boucherie et il était tout en haut. Et on venait, mes parents venaient un petit peu, pas comme tout le monde, mais plusieurs personnes venaient apporter à manger à monsieur Hoppler là au-dessus. Hein, comme ça, il a résisté là au-dessus, toute la guerre là au-dessus. Et quand la guerre a été finie, Hoppler est parti tout de suite, était allemand, il était un avocat allemand. Il est parti, voilà, il a disparu. Il a disparu. Et puis quelques temps après, quand je dis quelques temps, c'est quelques mois après, est arrivé dans notre maison où nous étions, une belle Mercedes arrive, s'arrête devant la maison. Il y a une dame qui descend de la Mercedes, il y a un chauffeur, la dame descend de la Mercedes et elle vient à la maison. Ma mère voit la dame, elle dit « Madame Hoppler, Madame Charlier !» Elles sont tombées dans les bras l'un de l'autre et elles ont raconté leur vie, sont rentrées en Allemagne. Et lui, il avait un grade d'avocat, tout ça, il a été repris par le gouvernement allemand et il est devenu l'ambassadeur allemand en Belgique. Et il était à Bruxelles comme ambassadeur, monsieur Hoppler. Et madame, ben, elle s'est dit une fois, elle est dire bonjour au Charlier à Namur. Et elle est venue avec la Mercedes, et elle est venue à la maison, madame Hoppler. Et ils ont eu des contacts avec les Hoppler tout un temps. Il y a une entrée rue des Croisiers, il y a une entrée de parking, de voiture. C'est là ou à côté, hein, et c'était en haut. Je crois que c'était une boucherie. En bas, en vrai, oui. Je pense que c'était une boucherie. Et je pense à ça parce que pendant la guerre, il y avait des concours de magasins, des façades de magasins. Pendant la guerre, hein, mais les gens se débrouillait aussi pour avoir des divertissements. Et ce boucher, si je ne me trompe, il avait dans son étalage, à la vitrine, des grands trous de fromage, chose qu'on n'avait plus jamais vue. Hein. C'était les Allemands qui piquaient les fromages hein, pour envoyer en Allemagne. Et ça, il n'y avait plus de fromage en Belgique. Et des roues de fromage, les gruyères, hein, épaisses comme ça, hein, marquées gruyère dessus. Les gens venaient avec des yeux comme ça. C'était en bois. C'était des éléments factices pour mettre dans les magasins. Ça, c'était en bas de chez Hoppler. Vous êtes dans la rue à Simoulin, devant notre maison. Donc, il y a la maison 13 ici, le grand mur de la prison ici. Et nous regardons vers la gare, OK? Alors, si vous partez tout droit, vous arrivez à la prison, la place de la prison. Et puis si vous allez tout droit, maintenant il y a des rues, tout ça, c'est très très asphalté, mais avant, vous allez tout droit, il y avait un talus et puis le chemin de fer. C'était des voies, des wagons de marchandises qui étaient parqués là-bas et ils venaient les chercher pour faire les trains, etc. Et il y avait, entre autres, des wagons allemands qui étaient là, en stand-by. Hein, ben, ils devaient peut-être charger des camions, du genre dessus, alors ils venaient, il y avait une rampe. Et nous, les seuls gamins, on allait là, vous voyez, ça avait rien, on descendait, il y avait une pente, quoi, une pente de 3 mètres de pente. Alors, il y avait des wagons allemands, là. Et il y avait, entre autres, sur ces wagons, je crois que ça existe encore maintenant, un wagon plat, et avec des grosses billes de chemin de fer qui sont mises comme ça. Donc voilà le wagon. Eh bien, il y a des grosses billes qui sont là, là, là. Quand ils mettent des camions dessus pour ne pas qu'ils tombent, ces grosses billes sont bien fixées sur le bord du wagon et ça tient très bien. Et c'est large comme ça et c'est épais comme ça, c'est lourd comme ça. Nous, on voyait ces grosses billes-là. Hein, il n'y avait pas d'Allemands dans les environs. Attention, ça faisait 2 mètres de long et c'était lourd. Hein. Alors mon frère et moi, il y avait une bille qui était au sol. On a pris la bille, on est remonté, on est rentré à la maison. Et sur cette grande bille, il était marqué Stuttgart. Jamais oublié. Alors on est arrivé à la maison avec ça. Ah, mon père était furieux sur nous, parce que mais vous ne vous rendiez pas compte, les gosses, si on vous avait vu, vous étiez. Il venait peut-être chez nous me prendre, du genre comme ça. Alors mon père a tout de suite scié le bois, a coupé ça en petits bois, parce qu'on se chauffait au charbon pendant la guerre, hein, et au bois. Alors, ça, il a utilisé ça pour se chauffer dans la maison. Le Stuttgart, on l'a brûlé comme ça. C'était une histoire de gamin, ça.
Que souhaiteriez-vous que les jeunes retiennent de cette période qu'a été la Seconde Guerre mondiale ?
Oh, écoutez, moi, c'est très simple. Je crois que c'est très simple. Nous devons, nous, les adultes, mais je ne sais pas si ça se fait, de faire comprendre aux jeunes, que des guerres comme on a connu la guerre 14, la guerre 40, qu'on a vu la guerre au Liban, qu'on voit les guerres, ce n'est pas de notre vie, ce n'est pas de vie. Il faut essayer de faire comprendre aux jeunes, mais il faut leur apprendre très tôt, quand ils sont à l'école primaire et secondaire, qu'il ne faut pas, à un moment donné, exploser. Il ne faut pas exploser contre celui-ci, contre cela. Il faut faire comprendre, essayer de faire comprendre aux enfants qu'il ne faut pas lutter physiquement contre d'autres gens. Non. Il faut comprendre qu'il faut trouver un chemin d'entente qu'il est très possible de trouver si on supprime la politique et les militaires. Les civils, en général, s'entendent bien, trouvent des moyens. Mais c'est trop souvent la politique qui est là derrière avec à donner des fusils, tout ça. Non, essayez de faire bien comprendre aux enfants que ces tueries, ces guerres, c'est absolument inutile. Et faire comprendre aux enfants que la preuve que qu'est-ce qui s'est passé après la guerre 14, c'était fini, comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé après la guerre 40? Rien du tout, on a retrouvé comme avant. Hein? Donc inutile de faire des guerres, inutile, mais ça il faut faire comprendre aux gosses.
De manière générale, quel message souhaiteriez-vous adresser aux jeunes?
Oui, moi il y a une autre chose que j'ai. Il ne faut jamais oublier ceux qui sont venus nous aider à sortir du marasme de la guerre, c'est-à-dire les Anglais, les Américains qui sont venus ici, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier et il faut quand même les remercier tout le temps, même si on se bagarre parce qu'en Amérique, il y a celui-ci qui n'est pas gentil, celui-là. Non, il y a des soldats qui sont venus chez nous, qui sont morts chez nous. Il suffit d'aller voir, Ben les connaît, les cimetières près de Liège, les cimetières américains, tous ces jeunes qui sont morts pour nous. Eh bien, il ne faut pas les oublier, il faut les remercier à la moindre occasion, il faut les remercier, oui, et ne pas les oublier.
Voilà, c'était un très beau témoignage de Claude Charlier qui habite aujourd'hui Wépion, il a 90 ans. Si vous aussi vous souhaitez témoigner, ben, il y a 4 possibilités pour nous contacter sur le site internet namurenguerre.be, par mail à l'adresse info@namurinc.be, par téléphone au 0474 114 909, 0474 114 909, ou par courrier ASBL Namur INC, rue Moncrabeau 6, 5000 Namur. Je vous dis à la semaine prochaine.